une vue d'ensemble de l'actualité.
Ben, suffisamment pour que la Sûreté du Québec ait annoncé hier qu'ils élargissaient le nombre d'enquêteurs.
Tout ça est très inquiétant. M. Lafrenière est venu ici au mois de mars, au printemps dernier, pour rassurer les parlementaires, rassurer les Québécois que les enquêtes avançaient et qu'il allait avoir des résultats. Là, ça va faire un niaisage. Il faut des résultats. Il faut des résultats rapidement.
Les gens sont intelligents, puis ils sont capables de voir aussi qui dit vrai dans toute cette histoire-là.
Drainville PM.
Ça va faire le niaisage, disait Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Alors, pour faire un peu le point sur la rentrée parlementaire à Québec, on a Antoine Robitaille, chef du bureau des enquêtes au Journal de Montréal, chef du bureau d'enquête parlementaire, dis-je bien, au Journal. Salut Antoine.
Bonjour.
Et Hélène Buzetti prend le relais aujourd'hui pour la politique fédérale. Elle est correspondante parlementaire du Devoir à Ottawa. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Tu vas nous parler de quelques dossiers qui sont chauds à Ottawa, notamment cette commission ou consultation sur le racisme. Il y en a une également en cours qui est en place à Ottawa. Et moi, je ne la connaissais pas. Je ne savais même pas que ça existait. Alors, tu pourras nous en parler dans un instant. Mais d'abord, la rentrée parlementaire à Québec. Antoine, vas-y.
Pour l'instant, ce fut une orgie de points de presse. C'était vraiment le festival du point de presse ce matin. Tous les partis s'y sont mis. Et évidemment...
Parce que la période des questions est seulement à 14 heures. Là,
hein? Exactement. Oui. Donc, la question qui était sur toutes les lèvres, c'était évidemment celle de Jean-Marc Fournier, qui... Jean-Marc Fournier est donc leader du gouvernement, ébranlé hier par la déclaration qui a été rendue publique là, par le journal d'Yves Francoeur, qui évidemment le mettait donc sur la sellette. Et là, c'est clair, Jean-Marc Fournier va rester. Il va rester, et il a dit je vais faire mon travail. Si jamais je deviens une distraction, au fond, là, il pourrait partir. Mais il nous a dit tout à l'heure, dans un long point de presse, qu'il allait rester.
OK.
Donc, on l'a entendu dans l'introduction. Philippe Couillard a dit au fond, il a demandé si son habilitation sécuritaire avait changé. Non. Il dit que c'est le seul lien que le gouvernement a avec les policiers, la seule ligne de communication. On se souvient que c'est comme ça qu'on a appris que Pierre Paradis était dans le trouble. Hein? Son habilitation sécuritaire avait changé. Pierre Paradis, donc ministre de l'Agriculture, qui était soupçonné d'harcèlement sexuel.
Alors, l'habilitation sécuritaire de Jean-Marc Fournier, elle, n'a pas changé.
N'a pas bougé.
C'est lui qui le dit, là, évidemment.
C'est lui qui le dit, c'est le premier ministre qui le dit.
Okay.
Donc, il est là, fort appui au caucus.
Ah oui, il y a eu une démonstration de...
Ah oui, absolument, il y a eu plusieurs...
Ils ont laissé rentrer les caméras pour montrer les applaudissements et tout,
l'ovation debout. Non, pas ce type d'appui-là, mais plusieurs parlementaires sont passés, plusieurs membres du caucus libéral sont passés pour dire que M. Fournier, c'était une bonne personne et qu'il ne méritait pas ce qui lui arrivait. Mm-hmm. Une des plus, je pense, une des sorties les plus senties,
oui?
Je dirais que c'est celle de Raymond Bernier,
député de Montmorency,
on peut l'écouter.
Et justement, du salissage, c'est du salissage, c'est dommage, parce que c'est un homme extraordinaire qui a travaillé très fort. Je ne sais plus quoi répondre sur ça, parce que ça vient de tout bord, de tout côté, sur toutes sortes de choses. C'est incroyable, on est au Québec, on veut une société démocratique qui respecte les gens.
C'est revenu dans certains commentaires, est-ce qu'il y a une sorte de manœuvre de déstabilisation du gouvernement. Chez Christine Saint-Pierre aussi, on a compris cela. Mm. Alors, mélange de critiques de ces fuites policières, mais aussi de la manière dont les médias les ont traitées.
OK.
Alors, écoute, moi, pour ce qui est du reste de la rentrée parlementaire, moi, je pense que c'est une rentrée qui est marquée, si tu veux, par les deux « i » et les deux « e ». Ça serait mon truc mémotechnique pour retenir ce qui se passe. Les deux « i », c'est « intégrité », évidemment, on vient d'en parler, et « identité ».
Mm-hmm.
Hein? Et pour ce qui est de l'intégrité, moi, je dirais que ce matin, avec les arrestations à Montréal, que l'UPAC fait encore... nous pousse encore à avoir envie de l'appeler l'unité permanente des coïncidences. il y a souvent des coïncidences. D'ailleurs, j'ai posé la question à Robert Poëty sur ça parce que lui-même Il a attaqué Yves Francaire, Robert Poetti, donc ancien policier qui a été ministre des Transports, dégommé, qui rêve de revenir au gouvernement.
Bien sûr.
On lui a posé des questions sur les déclarations du président du syndicat, Yves Francaire. Il a été très critique de cela. On peut l'écouter.
Ça l'attaque l'intégrité des institutions. Si on ne croit plus, évidemment, dans le gouvernement, si on ne croit plus dans la police, si on ne croit plus dans l'UPAC, là, je me pose des questions.
OK.
Et je lui ai rappelé quand même que lui, dans un point de presse, après une perquisition, c'est-à-dire, c'était l'UPAC qui est allé rencontrer Philippe Couillard en 2013, si je ne m'abuse, lui-même avait dit il n'y a pas de hasard. Si vous croyez qu'il y a des hasards en police, il n'y a pas de hasard. Laissant entendre qu'il y avait des ingérences politiques puis des agendas politiques des policiers, il a dit « Je maintiens ce que j'ai dit. C'est sûr que ça arrive qu'il y a des coïncidences qui font en sorte qu'on s'interroge. » Ça, j'ai trouvé ça fort.
Mais là,
même.
T'es-tu en train de dire, Antoine, là, que... après toute l'histoire autour de Jean-Marc Fournier d'hier, là, puis les déclarations de Yves Francaire, puis l'impatience que certains de nos concitoyens expriment par rapport à la lenteur avec laquelle l'UPAC bouge ou agit, t'es-tu en train de me dire que le fait de ce matin d'en arrêter sept, dont Frank Zampino, c'est une forme de réponse politique de l'UPAC aux pressions populaires?
Moi, ce que je te donne, c'est le pouls ici. Et ça fait partie des choses qui sont dans l'air. Je te dis pas que c'est ça. Je peux
tu parles dans les couloirs du Parlement, là. Les couloirs
absolument.
Du Parlement.
J'ai passé la matinée là.
OK.
Et c'est le genre de choses qu'on entend.
OK. L'opposition, eux autres, tu nous as fait entendre des libéraux. L'opposition, est-ce que tu crois qu'ils vont ouvrir la période des questions, que ce soit Lisée ou Legault, sur l'affaire Fournier, mettons?
Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être pas une ouverture. On va se garder une petite gêne, étant donné que là, l'espèce d'atmosphère autour de la déclaration de M. Francaire est pas très bonne. Là. Je veux dire, pour la déclaration, est très critique à l'égard de cette déclaration qui est effectivement très critiquable. Toi-même, hier matin et hier midi, tu semblais assez découragé par rapport à cette déclaration-là. Moi, j'ai l'impression qu'étant donné ces faiblesses-là dans la déclaration, il va peut-être avoir une petite gêne de la part des oppositions d'ouvrir tout de suite là-dessus. Lui s'attend à ça. Jean-Marc Fournier nous l'a dit tout à l'heure. J'ai hâte de voir. Ça va être une des surprises du début de la période de questions. C'est sûr que le chef de l'opposition, lui, Jean-François Lisée, par exemple, a parlé de fin de régime libéral. C'est l'impression qu'on a, selon lui. On peut l'écouter.
Mm-hmm. On est dans une phase de fin de régime libéral. Et ça suffit pas de critiquer les libéraux. Il faut dire qu'est-ce qu'on va faire à la place. Nous, on veut que d'ici la fin de l'année, les gens sachent qu'en santé, sur les questions d'identité et sur d'autres questions, le plan solide, c'est le Parti québécois qui l'a. Les solutions, c'est le Parti québécois qui l'a.
OK.
Je te parlais tout à l'heure de l'atmosphère autour des arrestations de l'UPAC. Si tu me permets d'y revenir,
oui.
Un extrait de Gabriel Nadeau-Dubois ce matin au sujet des arrestations de ce matin. On peut l'écouter.
Une descente de l'UPAC ce matin, le lendemain ou le surlendemain de révélation. Pourquoi ça prend ça pour que ça débloque? Et là encore, on est au niveau municipal. On a l'impression qu'à l'UPAC, tant qu'on est loin du palier provincial, on est capable de travailler, mais que dès qu'on s'approche du gouvernement du Québec, là, tout bloque.
Voilà. Oui, lui, il fait un lien, là. Visiblement, ah ben oui. Gabriel Nadeau-Dubois dit, les arrestations de ce matin de l'UPAC découlent d'une certaine façon des événements des derniers jours, là.
Ben oui, quand l'UPAC fait une arrestation, on regarde toujours le contexte. Peut-être que c'est pas une bonne idée, puis que les décisions policières se prennent en l'absence de ces considérations-là.
Non, mais lui, il pose pas
la
question, Gabriel Nadeau-Dubois. Ah, lui, il affirme que c'est lié.
Lui, il affirme que c'est lié, absolument.
C'est un peu hasardeux, non?
Oui, c'est hasardeux.
Parce que quand tu fais une affirmation comme celle-là, il faut que tu sois capable de l'appuyer par des preuves par la suite.
Oui, comme bien des affaires.
Oui, voilà. On va aller dans le Dominion, comme tu l'aimes l'appeler, Antoine, rejoindre Hélène Buzetti. Alors moi, j'ai appris ça, Hélène, ce matin, là, qu'il y avait un exercice sur le racisme qui est en cours et qu'il y avait les députés avaient siégé autour de ça.
Oui. En fait, il y avait beaucoup de gens qui l'ignoraient, là, bien franchement, c'est un peu passé sous le radar. Tout ça découle d'un débat qu'on a eu plutôt en février dernier, débat qui avait été assez acrimonieux, merci. Rappelez-vous, c'était une motion qu'avait déposée une députée libérale, Ikra Khalid, motion qui disait qu'essentiellement, il y avait un climat de peur et de haine au Canada et qu'il fallait pouvoir dénoncer les racismes et les discriminations systémiques, incluant l'islamophobie. La motion avait semé la controverse parce que, en fait, elle avait été déposée quelques semaines, en fait, même à l'automne précédent, mais elle avait semé la controverse parce que son moment de débat, c'est un peu le hasard, survenait à peine quelques semaines après la fusillade dans la mosquée à Québec. Alors là, il y avait un climat particulier. Et là, ça s'est mis à s'entre-déchirer, à savoir est-ce qu'il faut parler d'islamophobie, qu'est-ce que l'islamophobie, comment est-ce qu'on définit ça, et est-ce que ça peut venir empêcher ou limiter la liberté d'expression de gens qui pourraient, par exemple, vouloir critiquer l'islam. En tout cas, il y avait tout un débat là-dessus, ça avait été très déchirant, mais la motion stipulait aussi qu'il fallait qu'un comité parlementaire se penche sur la question. Or, la motion, elle a été adoptée. Et donc, c'est ce comité qui a commencé hier soir ses travaux. Travaux qui vont quand même se prolonger jusqu'au 10 novembre, essentiellement. Hein? Ouais, quand même.
Est-ce qu'ils vont, donc, ils vont entendre des témoins, là?
Exactement. Comme n'importe quel comité parlementaire, on a un sujet sur la table, puis on invite des gens qui sont connaissants dans le domaine ou qui sont intervenants, toutes sortes de professeurs d'université, de présidents de groupes d'intervention quelconque. Alors hier, on avait comme premier témoin Madame Khalid, là, la députée qui avait piloté cette motion là à l'origine de cette étude, et on avait aussi une espèce de brochette de fonctionnaires fédéraux qui représentaient différents ministères, incluant la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Mm-hmm. Eh bien, franchement, ça allait un peu dans toutes les directions. J'ai eu l'impression à entendre les députés qui siègent sur le comité que ils n'avaient pas une direction très claire de ce qu'ils voulaient faire avec cette étude. Parce qu'après tout, c'est pas une étude que eux ont demandé, c'est une étude qui leur est commandée par cette motion là, de la collègue Khalid. Alors, les questions allaient un petit peu partout. Vous savez, quand vous êtes député puis vous posez une question balle molle, pensez-moi l'expression, là, mais genre...
Ça m'est jamais arrivé, Hélène.
Expliquez-nous pourquoi c'est important de faire cette étude. Vous voyez, on ne sentait pas de grande passion ou de direction là, dans tout ça.
OK, ben on va souhaiter qu'il la trouve parce que tu as bien dit novembre, le 10 novembre, j'ai bien compris. Là.
Donc, c'est deux séances par semaine en général de 2 heures chacune, par semaine de siège parlementaire, là, évidemment. Donc, on aura quelques congés d'ici là, mais ça veut dire quand même quelques dizaines d'heures d'études.
Oui, plusieurs dizaines d'heures.
Ouais.
On va s'arrêter parce qu'au retour, on veut parler de Boeing. Bombardier Boeing, et puis il y a Antoine, notre ami Antoine, qui veut nous parler d'autres sujets, notamment de ces projets de loi là, qui sont à l'étude. Il parlait de l'identité tout à l'heure, bien, il y a le projet de loi 62, mais il y a également tout le débat autour du cannabis et de l'élargissement de l'aide médicale à mourir. On en parle dans un instant. Alors, de retour avec Antoine Robitaille et Hélène Buzetti. Antoine, parle-nous un petit peu de ces projets de loi, donc, qui seront un peu les phares de cette session parlementaire qui commence à Québec aujourd'hui. Oui. Résume-nous ça, là, étends-toi pas trop sur chacun, là, fais juste nous donner bang, 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 là. 62 visages à découvert.
Vas-y, t'es bien parti. Non, je fais des plans. L'identité, oui, effectivement, visage à découvert. Oui. Neutralité religieuse, on a déjà recommencé à discuter des signes ostentatoires la semaine passée. Donc, on dirait qu'on est reparti comme en 2013.
Tu penses-tu que à la fin, cette histoire-là, ce projet de loi-là va être adopté ou est-ce qu'il va être passé dans le baillon? Parce que moi, je te le dis, les libéraux, encore la semaine passée, m'ont dit 62, il va être adopté d'une façon ou d'une autre d'ici Noël.
Non, Jean-Marc Fournier l'a répété tantôt.
Alors, penses-tu que ça va être... Penses-tu que les oppositions vont le laisser sortir de commission? Et si c'est le cas, comment ils vont voter ou est-ce que les libéraux vont devoir utiliser le baillon?
Aucun signal actuellement que les oppositions veulent le laisser sortir. Ils n'arrêtent pas de déposer des amendements. Puis, comme je te dis, le débat sur ostentatoire, le mot ostentatoire a été repris la semaine passée. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers un cul-de-sac, à moins que le gouvernement décide vraiment, comme tu dis, de le passer de force.
OK. Cannabis?
Bien là, le projet de loi s'en vient. Effectivement, tantôt, on a eu la version péquiste de ce que serait l'encadrement du cannabis. On peut écouter d'ailleurs M. Lisée et M. Pagé là-dessus.
Nous nous rallions au consensus des spécialistes de la santé publique en disant que ça doit être 18 ans. Mais 18 ans où? Ben 18 ans à la SAQ. Nous, on pense que la SAQ et l'Auto-Québec ont tous les deux développé une expertise dans une forme de vice.
Nous disons 100% des profits, saines habitudes de vie, prévention, santé publique, réhabilitation et également les municipalités.
OK. Donc
on va être fixé, en tout cas, pour la volonté du gouvernement là, sur l'âge minimal pour acheter et consommer la drogue, mais aussi le mode de distribution.
OK. Le projet de loi sur le train électrique là, que la Caisse demande pour aller de l'avant avec son projet, ça,
oui,
c'est
projet
toujours
de loi 137.
Toujours pas voté, ça?
Non, toujours pas. Puis ça presse. Moi, je pense que l'accent va être mis là-dessus d'abord là, à la rentrée parce qu'on veut commencer. Il y a des travaux qui doivent commencer déjà. Rappelons que ce projet de loi-là confirme l'investissement d'1,3 milliard du gouvernement du Québec, mais aussi donne beaucoup, beaucoup de pouvoir à la Caisse de dépôt. Certains disent trop, mais tout le monde parle à micro fermé parce qu'ils ont peur de se faire dire qu'ils sont des gâcheux d'un beau projet, de gâcher un beau projet. Il y a des pouvoirs en termes d'expropriation.
Et l'aide médicale à mourir, ça aussi, il y aura des consultations?
Ça, c'est des consultations, c'est ça? Oui. Okay. On va continuer de consulter sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Moi, je pense que ça ne débouchera pas avant, mais ça va être dans le portrait.
Notamment pour les personnes qui sont atteintes de maladie de l'Alzheimer. Là,
tout à l'heure, tu parlais du racisme, la discussion sur le racisme à Ottawa, la consultation. Bien, évidemment, il va en avoir une à Québec. C'est mal parti.
Ouais.
Il y a deux parlementaires ce matin qui sont revenus sur cette question-là. On peut écouter Gabriel Nadeau-Dubois et Jean-François Lisée.
L'intérêt de cette commission-là, c'est pas de faire un procès, c'est d'aller écouter, d'aller entendre les gens qui, sur le terrain, vivent la discrimination et du racisme. Mais si on fait ça à huis clos, on passe à côté de l'objectif. Donc, pour nous, c'est clair, là. On n'est pas ici pour venir à la rescousse de la formule actuelle. Au contraire, on dit que cette formule-là, elle n'est pas satisfaisante. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et se débarrasser de toute la commission? On pense qu'il est encore temps d'agir.
Écoutez, c'est tellement mal engagé, de tellement de façons différentes, que la seule chose à faire, c'est de tirer la plug. Il faut annuler cette commission.
Oui, ils l'annuleront pas, ça c'est clair. Puis je pense pas qu'ils vont faire...
On a deux partis sur trois dans l'opposition qui demandent l'annulation, oui.
Ben, c'est-à-dire l'autre étant la CAQ. Québec solidaire souhaite que ce soit un exercice ouvert, mais je pense pas que ça va aller vers ça non plus. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement veut que ça passe sous le radar et que ça se termine le plus vite possible. Mais enfin, on verra bien.
Voilà.
Retournons à Ottawa pour parler de deux choses, Hélène Buzetti. D'abord, Boeing, le premier ministre Trudeau qui est sorti très fort en appui à Bombardier. Et parle-nous un petit peu également du pote.
Oui, ben on peut peut-être commencer par le pote parce que notre ami en parlait tout à l'heure, Antoine en parlait. Québec a quand même jonglé avec cette option d'interdire carrément la culture à domicile de la marijuana une fois qu'elle sera légale. Rappelons qu'Ottawa, dans son projet de loi, lui, veut le permettre jusqu'à 4 plants. Et donc, Québec dit, ça pourrait nous aller de 0 à 4 plants. Donc, la question qui se pose, c'est si Québec établit le seuil à 0, donc aucune culture à domicile, est-ce qu'on ne vient pas violer l'esprit de la loi fédérale? Est-ce que ça va passer? Donc, ce matin, M. Trudeau nous donnait une conférence de presse. On lui a posé cette question. Qu'est-ce qu'il pensait de cette intention de Québec? Et il n'a pas voulu se mouiller. On peut l'entendre.
Protéger nos enfants en rendant ça plus difficile d'avoir accès à la marijuana et aussi d'éliminer le marché noir, le crime organisé, les gangs de rue dans leur capacité de développer des profits sur la vente des marijuana. On a consulté énormément à travers le pays. Anne McClellan, Bill Blair et d'autres ont mené une conversation extrêmement large avec les provinces, avec différents experts. Et nous considérons que l'approche que nous avons est la bonne pour le Canada.
OK.
Vous l'entendez noyer le poisson?
Bien, pas à peu près. Là. Le poisson fait glou, glou, glou.
Absolument. Et donc, on est revenu à la charge. Écoutez, M. Trudeau, vous ne répondez pas à la question. Québec veut interdire cette culture à domicile. Est-ce que c'est contraire à l'esprit de votre loi? Il a fini par dire, c'est une question hypothétique, donc je ne vais pas me prononcer. Donc, on sent qu'Ottawa présume que c'est peut-être un ballon d'essai du côté de Québec, voir un peu comment les gens réagiraient. Mais vous savez, on a parlé à beaucoup d'avocats ou de spécialistes en droit qui disent que si jamais Québec établissait le seuil à zéro plan, donc pas de culture, il y a fort à parier que la première personne qui se ferait pincer pour avoir eu un ou deux plans à la maison pourrait contester cette loi devant les tribunaux. Et là, toute la question de la préséance du droit fédéral versus le droit provincial serait soulevée. On peut penser que ça serait un beau débat constitutionnel, mais il y a de fortes chances que ce soit la loi fédérale qui aurait préséance dans un dossier comme celui-là.
J'entends Antoine frétiller sur sa chaise quand il entend le mot constitutionnel. Mais Antoine, s'il te plaît,
J'ai des frissons.
Oui, je sais.
Et mon point 3 est bon aussi.
Oui. Et Boeing, rapidement, Boeing...
Hier, M. Trudeau, on savait là, que Ottawa songeait à annuler sa commande de Super Hornet à Boeing en guise de représailles, puisque Boeing fait des chichis là, sur la C-Series de Bombardier. M. Trudeau a été assez catégorique hier. Il a dit, écoutez, là, c'est pas vrai. Si une compagnie, Boeing, continue d'insister pour éliminer des dizaines de milliers d'emplois chez nous, on ne devrait pas s'attendre à ce qu'on leur achète des avions en plus. Et aujourd'hui, il en a remis, invitant ceux qui font affaire avec Boeing d'être aussi méchants. On peut l'entendre.
Il devrait passer ce message-là à Boeing. J'encourage les gens qui travaillent avec Boeing à travers le pays de leur dire à quel point leurs actions contre l'industrie aéronautique canadienne n'est pas dans leur intérêt et certainement pas dans l'intérêt des Canadiens.
Il va dire, il lâche pas, hein?
Non.
J'ose pas dire agressif, là, parce que c'est pas de l'agressivité, mais il est très déterminé, très tenace, très ferme, oui, dans sa défense de Bombardier, de la série C. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. J'ai surtout hâte de voir si Boeing vont finir par plier les genoux et retirer leur plainte. Allons rapidement à Antoine, qui nous a fait savoir qu'il souhaitait qu'on lui retourne la POC, comme on dit, parce que son point 3 est fort pertinent. Antoine, alors vas-y.
C'est une nouvelle de ce matin. Issan Elgarnaty, qui est candidate du Parti libéral, finalement, dans Louis Hébert, on a appris que c'est Le Soleil qui a dévoilé ça, qu'elle avait été sur l'exécutif de l'ADQ en 2007. Et là, j'ai posé une question à François Blais ce matin là-dessus, parce qu'il nous parlait de ça, puis il disait, bon, c'est pas grave, c'est une erreur de jeunesse, presque. Il a pas dit ça comme ça, là, mais je paraphrase. Oui. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais dans Louis Hébert, il y a un tel chassé-croisé entre la CAQ et le PLQ que c'en est incroyable. Écoute ça. L'ancien candidat Tétrault avait été approché par la CAQ, mais il s'est finalement présenté pour le PLQ. L'ancien candidat caquiste a longtemps voté pour Sam Ahmad, le libéral, mais s'est finalement présenté pour la CAQ. Il a été remplacé, évidemment, comme candidat par Geneviève Guilbeault, qui est une ancienne des cabinets libéraux, mais qui se présente pour la CAQ. Mais revenons au PLQ qui, selon des sources sûres, a songé à présenter Anne Marcotte. Elle-même avait approché la CAQ pour se présenter. Je trouve ça tellement drôle. Je te dis, Penelope McQuaid a terminé sa saison, mais les échangistes se poursuivent dans Louis Hébert.
Très bien, c'est une bonne conclusion. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal. Tu vois, t'as pu placer ton dernier mot.
J'avais deux extraits, mais je me suis tué. L'incontinence verbale, c'est fini.
Très discipliné. Et Hélène Buzetti, correspondante parlementaire du Devoir à Ottawa. Merci, Hélène.
Merci, au revoir.
Merci, Antoine. À demain.
Salut.